RTL, première radio de France.
L'Illuminati est supposé être une société secrète opérant depuis des siècles aux dimensions planétaires.
La curiosité est un vilain défaut.
Le Ku Klux Klan est une organisation encore très puissante dans le sud des États-Unis.
RTL.
Il lui a fallu des années pour réunir des informations sur les Skull and Bones, le crâne et les os.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
J'ai peur.
Mais oui, connaissez-vous les Illuminati, les Tongs, les Skull and Bones, l'Ordre de Thulé, ce sont des sociétés secrètes. Ça fait peur, elles existent partout
sauf les
dans le monde.
Peut-être, si je puis, mais...
Bah, les Tongs, vous allez voir. Vous allez voir, c'est pas forcément un club de plagistes. Hein. Allez, sérieusement, des sociétés secrètes qui existent partout dans le monde, ou qui ont existé et qui ont parfois changé le cours de l'histoire. C'est ce que vous nous racontez, Véronique Chalmet. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans un article publié dans le magazine Ça m'intéresse Histoire, qui est en kiosque en ce moment. Le point commun de ces sociétés secrètes, c'est quoi? Le culte de la mort, l'appétit du pouvoir, qu'est-ce que vous mettriez en premier?
Je dirais que c'est plutôt la volonté de subversion. En fait, en période de crise, on cultive aussi beaucoup le mystère, et puis on rencontre souvent deux attitudes qui consistent soit à vouloir infléchir le cours de l'histoire, soit vouloir réenchanter le quotidien. Et en fait, ces sociétés secrètes se partagent un petit peu entre ces deux pôles.
Mmh. Est-ce qu'il y a des symboles que l'on retrouve dans de nombreuses sociétés secrètes?
Alors, on retrouve la chouette de Minerve, qui est le symbole de la sagesse. On retrouve évidemment le pentacle, qui à l'origine est un symbole de vie, mais qu'on peut inverser, évidemment, comme
ça ressemble à quoi?
C'est une croix?
Oui, c'est une croix avec cinq branches. On retrouve aussi la pyramide tronquée, sur les billets des États-Unis, par exemple, sur les billets $1. Qui est aussi un symbole en fait de sagesse, d'élévation spirituelle, etc. Mais tous ces symboles sont récupérés par les sociétés secrètes qui les détournent, qui les utilisent et qui utilisent le double langage.
La pyramide tronquée, c'est aussi ce qu'on appelle l'œil de la Providence. C'est cette pyramide avec l'œil à l'intérieur, c'est ça ?
Oui, il est juste au-dessus. Alors ça peut être l'œil de Dieu, ça peut être l'œil de la Providence, ça peut être plein de choses. Mais il y a une notion en même temps de surveillance et puis il y a un côté un peu Big Brother évidemment là-dedans.
Justement à propos de cet œil de la Providence, c'est un œil donc qu'on retrouve dans un triangle lumineux. C'est le symbole des Illuminati. C'est une société secrète dont on parle beaucoup dans les médias ces derniers mois. Pourquoi cette notoriété soudaine ?
Je pense que les Illuminati c'est une des sociétés secrètes finalement les plus médiatisées, les plus connues. Elle a disparu pourtant il y a très très longtemps, puisque elle a disparu après la Révolution française. Et en fait, sa postérité a été assurée par ses détracteurs.
Ces détracteurs, c'est par exemple
Ces détracteurs, c'était un abbé ardéchois du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, qui était convaincu que la Révolution française avait été fomentée par les Illuminati. Et donc par leur fondateur Adam Weishaupt. Il a écrit là-dessus, c'est devenu son obsession. Donc finalement, et puis d'autres ont repris ses écrits. On a repris ce qu'il disait sur les Illuminati comme si c'était quelque chose de véritable, comme si c'était des faits, et ça ne l'était pas. Et finalement, donc cette peur s'est propagée au fil des siècles.
Mais pourquoi ça revient? Moi, j'ai l'impression que depuis 6, 8, 10 mois, un an, on en parle. Il y a des sondages qui ont été faits pour savoir si les Français y croient ou pas. Les ados sont persuadés que les Illuminati régissent le monde.
En même temps, c'est très pratique d'avoir peur de quelque chose de complètement irrationnel, parce qu'on on peut focaliser ses angoisses sur ce qu'on veut finalement. On lui donne la forme qu'on veut, on lui donne le discours qu'on veut, donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier finalement.
D'autres sociétés secrètes beaucoup moins connues que les Illuminati ont changé le cours de l'histoire. Saviez-vous par exemple que de nombreux présidents américains ont été membres des Skull and Bones, qui, comme son nom l'indique, prête serment sur un tas d'os surmonté d'un crâne. On en parle sur RTL dans un instant.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Existe-t-il à notre époque une fraternité secrète et globale qui complote pour diriger le monde?
RTL.
Des armes dévastatrices ont-elles été réparties aux quatre coins du globe à des fins catastrophiques?
Jusqu'à 22h.
Peut-on enrayer le processus?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut, sauf entre 20h et 22h sur RTL. On parle ce soir de ces sociétés secrètes avec l'écrivain et journaliste Véronique Chalmet. On évoquait tout à l'heure les Illuminati qui font fantasmer beaucoup de jeunes Français depuis quelques mois et qui croient à tort, ces jeunes Français, que cette confrérie tire les ficelles de l'économie mondiale. Bon, on les a déçus, hein, oui. ça n'est pas vrai. En revanche, cette société secrète, elle a bien existé au XVIIIe siècle. Contre qui elle s'est créée? Contre qui elle se battait?
Elle se battait contre la religion, contre le pouvoir de l'Église en fait en Bavière. Et les Illuminati étaient les Illuminés, donc ceux qui voulaient contrer ce pouvoir et mettre à leur place des gens qui pouvaient avoir la mainmise sur les institutions.
Donc les Illuminati ne dirigent plus l'économie mondiale. En revanche, il y a d'autres sociétés secrètes qui abritent depuis très longtemps des hommes très puissants, notamment aux États-Unis, les Skull and Bones, par exemple. Qui sont ses membres les plus éminents?
Alors, on a les présidents des États-Unis, on a eu George Bush, aujourd'hui on a John Kerry.
Le secrétaire d'État américain, l'équivalent voilà. Du ministre des Affaires étrangères.
Et quasiment tous les présidents des États-Unis, finalement, depuis la fondation de l'organisation en 1832, si ma mémoire est bonne.
Et elle sert à quoi, cette société secrète?
1932, pardon. Oui, 1832. Cette société, elle sert en fait à mettre les puissants au pouvoir. Elle a été fondée donc à l'université de Yale, et on prenait les représentants les plus éminents de l'aristocratie des États-Unis, et puis on essayait de les former et de les bizuter aussi au sein de cette confrérie.
C'est-à-dire l'accueil est un peu...
Il est musclé, l'accueil. Ouais. C'est-à-dire que les initiés se font battre. Enfin, on sait peu de choses, mais on sait que c'est très coriace quand même. Hein. Et d'ailleurs, la frate, le bâtiment à Yale, s'appelle The Tomb. La tombe.
Pour moi, c'est clair dès le départ.
Oui, c'est très clair. Et puis, les ossements sont quand même leur emblème.
Oui, parce que skull and bones, voilà. Ça veut dire un crâne et des os,
et
c'est
des
ça
os. Et on soupçonnerait, alors tout ça est à mettre au conditionnel, que c'est le grand-père de George Bush, Prescott, qui aurait en fait volé les ossements du Geronimo pour les ramener à sa frate, comme on dit.
En tout cas, c'est ce qui a lancé la légende des Skull and Bones.
C'est ce qui a lancé la légende. Et depuis cette époque, on photographie des ossements, et on photographie chaque année les membres des Skulls and Bones de cette manière-là, c'est-à-dire sur fond noir, dans leur frate, et avec une horloge derrière. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Autre principe de cette confrérie très secrète qui nous a donc offert une kyrielle de présidents américains, la transparence sur sa sexualité, c'est vrai ça?
Bah oui, parce que c'est un moyen en fait de tenir les gens et de les tenir au secret surtout. Et d'ailleurs, ça marche très bien, puisque George Bush, interviewé en 2004 sur les Skulls and Bones, a dit: mais c'est tellement secret que je ne peux pas en parler.
Ce qui était une façon d'admettre la réalité.
Voilà, c'était une manière un petit peu gentille de dire qu'il savait de quoi il s'agissait, mais personne n'en parle effectivement. Alors il y a des voisins de campus qui ont réussi à avoir des détails sur ce qui se passait, donc c'est comme ça en fait que ça transpire et qu'on sait un petit peu de quoi il s'agit. Mais effectivement, la sexualité, ils se racontent tout sur leur sexualité pour avoir prise les uns sur les autres, finalement.
Autre confrérie américaine très influente, le Bohemian Club. À quoi il sert et de qui est-il composé?
Alors, le Bohemian Club, lui, il a été créé en 1872, et finalement, c'est une espèce d'internationale conservatrice, néo-conservatrice, et qui regroupe, pareil encore, l'élite, selon les critères de certains, l'élite mondiale. Et ces gens se réunissent donc tous les ans en Californie à la fin du mois de juillet. Alors, on ne sait pas ce qui s'y dit, c'est toute la beauté de la chose.
Mais vous dites quand même que des actes de guerre ont été décidés lors des réunions de cette société secrète. Lesquels?
Alors, on ne sait pas précisément lesquels, mais encore une fois, puisqu'on regroupe enfin des leaders ensemble, ces leaders évidemment discutent, et ces leaders décident de certaines choses. Donc là en fait, c'est plus de... c'est l'influence en fait. Ce sont des réseaux d'influence qui se tissent. D'ailleurs, le Bohemian Club a pour devise: les araignées tissent leur toile ici. Donc c'est vraiment, c'est emblématique de ce qui s'y passe.
Autre point commun de ces sociétés secrètes, le culte de la mort. Jusqu'où sont allées certaines de ces confréries les plus sanguinaires? On vous dit tout dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Le monde libre n'existe pas.
Jusqu'à 22h,
l'initiation du novice est des plus étranges.
Thomas Hugues.
Les membres d'une société très élitiste l'ont choisi.
Sidonie Bonnec.
RTL.
Ce sont des clubs très fermés, des sociétés secrètes dont les membres sont parfois très puissants. Certaines ont disparu et heureusement. Véronique Chalmet, on en parle avec vous. Vous êtes écrivain, vous publiez dans Ça m'intéresse, histoire en kiosque en ce moment, un dossier spécial passionnant sur ces sociétés secrètes. Ça nous fait un peu penser, ces sociétés secrètes, à la franc-maçonnerie. C'est un peu pareil?
Oui, alors c'est différent parce que la franc-maçonnerie, finalement, c'est une société du secret, donc qui a des rites plus ou moins secrets, des initiations, mais qui est absolument pignon sur rue. On connaît leur adresse, on a des documents, les profanes sont invités à des portes ouvertes. Enfin bon, c'est. Mais en revanche, les sociétés secrètes ont récupéré leurs symboles et les choses les plus marquantes, en fait, dans leur rituel, et ils se sont appropriés, en fait, leur langage, d'une certaine manière.
Alors, autre société secrète dont je découvre, en fait, l'existence dans votre dossier spécial, ce sont les thugs, je prononce bien ?
Oui. Parfait.
Où est-ce qu'on les trouve, les thugs ?
En Inde. Ouais. En Inde, au milieu du 19e siècle. Ils ont été, ils ont été décimés par l'armée de la reine Victoria, qui a décidé qu'il fallait mettre fin à leur pratique parce que ça devenait vraiment envahissant. Ils existaient a priori depuis plusieurs siècles déjà, et en fait, c'était des tueurs religieux qui tuaient pour la déesse Kali sans répandre le sang. Alors leur méthode était très particulière puisqu'elle consistait à étouffer avec un garrot lesté de pierre, donc c'était particulièrement atroce. Ils s'attaquaient aux voyageurs, ils s'attaquaient à tous ceux qui tombaient sous leurs mains.
Et qu'est-ce que la reine va faire pour les éradiquer, ces thugs, cette société secrète?
Alors la reine a constitué une espèce de brigade de recherche spéciale qui était dirigée par un colonel qui s'appelait le colonel Slimane et qui s'est attaqué au problème de façon cohérente, logique, et il les a traqués, il en a arrêté beaucoup, quelques-uns ont été pendus, mais le problème a été quand même assez vite réglé, puisqu'il a été réglé en 10-15 ans, et les thugs n'ont plus ou rarement fait parler d'eux. Ensuite.
On est dans les années 1840, c'est le tout début du règne de Victoria.
Ouais.
Cette secte, parce que moi j'ai presque l'impression que c'est une secte, elle existe depuis longtemps.
Elle existe après. On imagine qu'elle existe depuis 600 ans. C'était ce que Slimane avait fini par déduire.
Autre société secrète qui pratiquait le culte de la mort, c'est l'ordre de Thulé. Quels sont les symboles de cet ordre ?
La croix gammée. Et le salut, c'est Sieg Heil. Donc, évidemment, on est renvoyé à quelque chose qu'on connaît. Et à juste titre, puisque c'était un petit peu le think tank des nazis, c'est-à-dire c'était leur laboratoire de recherche et comportemental, symbolique, etc.
Qui a été créé quand, l'ordre de Thulé?
Alors, il a été créé juste avant la fondation du parti nazi en 1920. Il a été créé par un personnage assez louche qui finalement était un petit peu ésotériste, qui cherchait aussi les racines du pan-germanisme, enfin, qui s'est introduit un petit peu dans cette mouvance nationaliste de l'époque et qui a recruté en fait dans les tavernes de Munich des gens qui pouvaient le suivre, mais qui recrutaient aussi dans les couches aisées de la population et politiques aussi. Mmh.
Ça veut dire que l'antisémitisme est théorisé dès la création de l'ordre de Thulé?
Absolument. Dès 1920, l'ordre de Thulé a été créé en 1918 et en fait en 1920 on peut dire que les choses étaient déjà assez installées puisqu'ils ont fait toute une série de publications entre 1920 et 1925 où on retrouve toutes les thématiques nazies et notamment l'extermination des juifs est prévue et recommandée.
Hitler était membre de l'ordre de Thulé?
Hitler en était membre, de même que Rudolf Hess, de même que Göring et Himmler, qui va par la suite créer aussi l'Annenerbe, qui était la société de recherche des racines germaniques et qui a aussi donné lieu à l'eugénisme et aux exterminations raciales dans les camps. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose qui a inspiré vraiment les nazis.
Donc c'est une société secrète, l'ordre de Thulé, qui arrive finalement au pouvoir.
Oui, absolument.
Et ça c'est l'un des objectifs communs de nombreuses sociétés secrètes dont vous parlez dans votre article, Véronique Chalmet. Qu'est-ce qui se passe quand une société secrète arrive au pouvoir, parce qu'elle était secrète, elle est en pleine lumière. Qu'est-ce qui se passe?
Alors déjà, en fait, le gourou de la société secrète, je l'appelle un gourou pour faire simple, mais Adam Glauer s'est fait démettre de ses fonctions, pour ainsi dire, alors qu'il arrivait au pouvoir, c'était dommage. Donc en fait, il a été remplacé par Himmler et sa société de Dannenherbe qui a repris toute la thématique de Tulé. Et ce Glauer a voulu écrire un livre, dire qu'il était à l'origine des théories nazies, etc. Enfin bon, Hitler était au pouvoir, c'était fabuleux pour lui. Et finalement, Hitler, en 1937, a interdit les sociétés secrètes. Il savait très bien ce qu'il faisait puisqu'il venait de l'une d'elles. Donc voilà.
Il voulait garder la paternité de ses idées, de cette antisémitisme.
C'était exactement ça. Et d'ailleurs, il a banni Glauer, qui est parti en Turquie, etc. Qui n'a rien pu faire.
Et puis il avait compris, pardon, je vous interromps, le risque que représente le fait d'avoir une société secrète dans une société et dans un pays, parce que ça avait marché pour lui.
D'ailleurs, Hitler s'entourait d'ésotéristes, mais finalement, il les craignait aussi. Il craignait le pouvoir de la paranoïa et de l'obsession qui est générée par les sociétés secrètes aussi.
Et il y a beaucoup d'autres confrérie à découvrir dans votre article passionnant. Véronique Chalmet, merci beaucoup d'être venue avec nous partager votre curiosité. Je rappelle que vous êtes écrivain, votre article est à lire dans le magazine Ça m'intéresse, Histoire.
Vous écoutez RTL.